Le grand superviseur de la cité de Mu opina d'un large signe de tête avant de dire « Oui, le fait qu'il demeure le seul témoin de notre ancien monde lui donne un pouvoir terrible sur les grands prêtres qui sont fascinés par l'ancien et puissant seigneur fruitier d'Arcara. Les écrits laissés par les premiers Atlantes sont déjà contestés. Depuis qu'Alba a formé secrètement une secte composée de grands prêtres et de citoyens qui préfèrent placer leur foi dans cet homme. Tous les premiers Arcariens sont morts. Mais s'ils disaient la vérité, placez-vous dans la peau d'un Atlante qui veut vivre éternellement. Vous réaliserez combien il est facile pour Alba de le confronter à cette question aussi simple que, si ses maîtres avaient raison et pas moi, pourquoi sont-ils morts? Et pas moi. Ainsi, Alba finira par détruire la réputation de ceux qui l'ont enfermé dans une tour en arrivant sur Terre. C'est cela, Gitonial. Oui, c'est plus que possible. Il faut trouver un moyen de raviver la foi des Atlantes, et surtout mettre en garde les jeunes contre les mensonges d'un homme qui a fait périr les habitants de la grande cité de verre à cause de ses ambitions. C'est par cet élixir que l'ancien seigneur arcarien compte manipuler ses adeptes. Je ne sais pas, Péchel. C'est une probabilité. En ce qui me concerne, pourquoi cet homme m'aurait-il offert ce petit vin au goût de citron, alors? Voilà, je vais vous le dire. Dans nos écrits laissés par le maître Anaximon, le missionnaire attendu sera le père d'Atlantin. Mais qui est donc le père d'Atlantin? Mercure, maître vigneron. Il travaillait pour Alba dans les vastes vignes et vergers d'Atlantis. Vous me troublez beaucoup, car j'ai entendu Alba prononcer ce nom lorsque j'étais vraiment ivre. Vous voyez bien que nos écrits ne mentent pas au sujet du missionnaire qui sera le père d'Atlantin. Alba vous a simplement reconnu, et c'est pour cela qu'il fut si généreux avec vous. Il a tenté de vous rappeler ce nom de Mercure pour des raisons que j'ignore. Alba sait sans doute que vous êtes ce missionnaire et veut par conséquent compromettre votre mission de paix en vous rappelant votre ancienne vie. Donc je serai l'âme de Mercure, c'est fascinant. Oh, mais c'est surtout dangereux. Alba n'a pas de véritable ami, mais des admirateurs. Ne vous laissez pas prendre dans son jeu, Péchel. Vous êtes le père d'Atlantin, et je vous demande humblement de songer aux milliers d'êtres qui sont morts dans la cité de verre à cause de celui qui était votre patron à cette époque. Vous êtes morts, comme les autres citadins, au cours de ce cataclysme provoqué par Alba et ses complices. Selon nos écrits historiques, Mercure ne faisait pas partie du complot pour prendre le contrôle de la planète. Je vous le dis avant que des scrupules vous hantent inutilement. Votre relation avec Alba ne durera que le temps où vous demeuriez à Atlantis. On vous décrit comme le soulard des grands vignobles communautaires. Alba était votre patron et vous, le meilleur vigneron du pays. C'est pour cela que ce seigneur aimait bien boire en votre compagnie afin de discuter joyeusement des nouveaux vins. Alba se fiait à votre jugement, même s'il vous détestait à cause de vos abus d'alcool. Les grands prêtres voulaient vous aider en vous envoyant travailler dans les champs de blé, justement pour vous éloigner des tentations. Malheureusement, votre bon patron ne tenait pas à voir partir son maître vigneron. Vous étiez souvent ivre, et Alba devait vous cacher chaque fois que les religieux venaient au vignoble pour voir comment allait le soulard. Ne croyez pas que ceux-ci vous jugeaient pour vos abus d'alcool. Il voulait simplement vous éloigner d'un patron et d'un mauvais tuteur qui a raconté à qui voulait l'entendre les dernières beuveries de son fils adoptif. C'est lui qui vous désignait ainsi. Les écrits officiels disent simplement que Mercure travaillait pour Alba. Lorsqu'il perdit son poste de grand administrateur des vergers et vignobles d'Atlantis, il vous oublia très vite. Donc j'étais un soulard. C'est ce que rencontrent nos écrits historiques. Je ne sais pas pourquoi votre âme s'est incarnée sur Terre, mais vous êtes Mercure. Oh, je comprends tout à présent, lui dit Péchel en souriant. Je suis le père d'Atlantin, et c'est pour cette raison que c'est à moi qu'on a confié cette mission. Je dois donc parler à mon fils. C'est étrange, comme le monde est petit. » Il faut savoir que Pechel était le genre d'homme qui ne s'étonne de rien. Le fait d'apprendre qu'il serait l'âme d'un arcarien lui faisait drôlement plaisir. Puis de se retrouver ensuite dans une situation où il reverrait un fils de 72 ans, bien sonné, alors que lui-même donnait l'impression d'en avoir 50, ne le dérangeait pas du tout. Dans une situation cocasse et étrange, Pechel savait garder la tête froide. Le grand superviseur de Mu a appris de Pechel que le projet d'Atlantin mettait en péril la paix de l'île. « Vous ne pourrez jamais convaincre Atlantin d'abandonner son projet. Pour lui, la construction d'un temple à Raya est une question de survie, » dit Gitanial au missionnaire déçu. « Ne croyez pas que je défende Atlantin. Je suis de son avis sans plus. Ce temple va rappeler au peuple qui vient d'Arcara. Au temps du prophète Kanapira et des autres pionniers venus de cette planète, il fut relativement facile de vivre avec les souvenirs d'un monde disparu. Personne n'avait approuvé quoi que ce soit sur son existence réelle. C'est très différent aujourd'hui, puisque les nouvelles générations n'ont jamais vécu sur Arcara, jamais connu les premiers guides Atlantes, comme les maîtres Anakilémon, Adep, Kanapira, Adamas et tous les survivants de la cité détruite. Atlantin et moi sommes les seuls à pouvoir encore nous rappeler de ce monde. Je dois avouer cependant que ni Atlantin ni moi-même n'avons connu le fameux canton d'Atlantis. Nous sommes nés dans la cité de Verre et nous étions très jeunes lorsque Primus Tazal nous fit traverser un grand couloir afin de trouver refuge sur Terre. Beaucoup de Muriens pensent que je suis le véritable fils de Kanapira, anciennement connu sur Arcara par Kana, celui qui fait apparaître des petits feux en imposant les mains. De là lui vient son nom de Kanapira, c'est-à-dire Pira pour feu. Je considérais Kanapira comme mon véritable père, puisqu'il m'adopta en arrivant sur cette île. Ma mère, qui me tenait dans ses bras, mourut 2 jours après notre arrivée. C'est Kana qui demanda de devenir mon père adoptif. Lorsqu'il partit un jour vers une terre appelée Égypte, c'est son frère jumeau qui s'occupa de mon éducation. Lorsque je fus assez grand pour me débrouiller seul, Anakilémon se retira dans une caverne afin d'y écrire ses mémoires. On l'appelait l'ermite, car il passa le reste de ses jours dans cette caverne de Glaise. De là, son nom de Anak et Limon, c'est-à-dire Glaise. On en a fait Anakilémon. Atlantin est venu sur Terre, accompagné de sa mère, n'est-ce pas? Vous vous rappelez son nom? Oh, j'avoue ne pas m'en souvenir. Je suis l'âme de Mercier, pas l'esprit de cet homme, n'est-ce pas? Est-ce que le nom de Rosia vous rappelle quelque chose? Un visage. Je vois un joli visage, mais c'est peut-être juste une idée que je me fais d'elle après tout. Oh, Rosia était très belle. Atlantin lui ressemble beaucoup. Il ne possède aucun trait de son père? Si. Le bas du corps, et les yeux enjoués de Mercier. C'est du moins ce que lui disait sa mère lorsqu'il tentait de se souvenir de son père. Atlantin n'avait que quelques années lorsqu'il arriva sur Terre. Rosia est décédée depuis longtemps, depuis 40 ans environ. Elle parlait souvent de vous, enfin de Mercier. Du Soulard se contenta de répondre Pechel qui avait le cœur gros. Rosia n'employait jamais ce mot pour vous désigner. Elle disait toujours « mon charmant absent ». Il semble que vous étiez un genre de marchand et que les affaires semblaient vous préoccuper plus que votre famille. Oh, je devrais sourire, vous savez, car il n'y a pas beaucoup d'humains qui connaissent l'origine de leurs tendances naturelles. Je sais maintenant pourquoi j'aime tant le vin et pourquoi je deviens excité en voyant de l'or. Je parie que Mercier aimait l'or autant que moi. Je ne sais vraiment pas si cet arcarien aimait l'or. Il aimait marchander comme beaucoup de citadins. Il faudrait sans doute le demander à votre fils. Mon fils, oui, bien sûr. Gitanial respectait trop les écrits de Mu pour interdire à Pechel le droit de parler à Atlantin. Il savait que ce missionnaire allait tenter de le convaincre d'abandonner son projet à Raya, mais connaissant fort bien l'architecte, c'était peu probable qu'il y parvienne. Le grand superviseur lui dit tout de même, avant de le faire accompagner au temple de cristal, « Je suivrai les conseils d'Atlantin s'il décide de vous obéir. Je vous rappelle que Raya est devenue une terre sacrée pour les Atlantes et que mon peuple n'acceptera pas de laisser ce trésor entre les mains des géants. Depuis la découverte de ce fragment d'Arkara, nous avons repris nos livres anciens afin de les étudier avec soin. Les jeunes s'intéressent à cette pierre dorée, tout comme les grands prêtres historiens, scientifiques, archéologues et spécialistes astrologues. Si Poséidon désire nous faire quitter l'île en laissant derrière nous la seule preuve de notre histoire arcarienne, c'est la mort qu'il nous demande. Nous voulons la paix et la fraternité entre les Atlantes et les tribus de l'île, mais pas au prix d'abandonner un site que nous comptons habiter dès que le temple y sera bâti par Atlantin. » Le grand superviseur de Mu baissa les yeux en ajoutant, « Nous n'avons plus planète. C'est sur cette pierre de Raya que nous aurions bâti notre cité si nous avions découvert ce site avant la construction de Mu. Nous laisserons Pia et Mu aux géants s'ils acceptent de nous céder Raya. » Cette fois, c'est Pêcheur qui baissa les yeux, puisqu'il avait vécu assez longtemps dans une tribu primitive pour savoir qu'un lieu sacré ne peut jamais être négociable. Les géants croyaient fermement que le soleil leur avait laissé un gage de son amitié en jetant cette pierre ronde sur terre. Ainsi, aucun Atlante ne pouvait ébranler leur foi. En deux mots, pour obtenir Raya, les étrangers devaient tenter de s'en emparer par la ruse ou par la guerre. Le temple de cristal était rond comme une demi-coquille d'œuf. Les Mûriens possédaient des techniques particulières pour polir les pierres et les rendre aussi lisses que le miroir. La jolie structure brillait au centre de la cité, entourée par quatre vastes bâtiments rectangulaires, devant lesquels se dressaient d'immenses statues d'animaux. La première que vit Pêchel l'impressionna au premier coup d'œil. Elle représentait la tête d'un aigle royal. Un autre montrait un vieux renard édenté, puis celle d'une magnifique licorne ailée. Juste devant la porte du temple de cristal se dressaient deux statues identiques. Elles représentaient les jumeaux Kanapira et Anakilemon. Sous le bras droit de Kanapira, on pouvait remarquer un œuf argenté, symbole du monde. Comme on disait que ce jumeau avait le pouvoir de créer du feu, Pêchel en conclut que l'œuf était non seulement le symbole du monde, mais celui de la vie. Le feu est le maître de la vie. Sous le bras gauche de l'autre statue se trouvait un livre fermé. On représentait souvent Anakilemon de cette manière. On sait qu'il a écrit plusieurs manuscrits atlantes et surtout fabriqué un immense coffre en or massif dans lequel cet ermite rangea un miroir fantastique et même des parchemins. Le missionnaire se retrouva bientôt dans un grand hall vide, où l'écho de ses pas résonnait sur les parois lisses de l'intérieur du temple. La voûte, très haute et baignée par la lumière du jour, donnait au visiteur cette nette impression de se trouver au cœur d'un cristal. Puisque les Atlantes aimaient les couleurs, un ingénieux système d'eau colorée faisait le tour du grand hall. On aurait dit des centaines de tubes transparents remplis individuellement par une eau de couleurs différentes. Comme ces tubes s'entrecroisaient en triangles, losanges, carrés, cercles, rectangles et autres figures géométriques, cela donnait un effet extraordinaire. L'eau circulait dans tous les tubes en formant des milliers de bulles. Pêchel monta ensuite un long escalier en tire-bouchon, et se retrouva dans une salle remplie de plans d'architecture. Il y avait au moins 50 tables alignées au centre de la pièce et quelques milliers de croquis de temples éparpillés sur celle-ci. Un homme s'approcha lentement de l'inconnu en lui tendant amicalement les mains. « Je vous salue, étranger. Soyez le bienvenu dans mon atelier de travail. » Atlantin demanda Pêchel en lui souriant. « Lui-même. » Gignal m'a demandé de vous recevoir, car sans quoi, je vous avoue que j'aurais refusé de le faire. Personne n'entre normalement dans mon atelier. Le grand superviseur m'a laissé sous-entendre que mon projet pourrait nuire à la paix que nous espérons maintenir avec les géants et les pêcheurs de l'île. J'avoue en être franchement étonné. Je vous en prie, je ne suis pas ce monstre qui cherche à dévorer vos ambitions, lui répondit Pêchel. Je ne suis qu'un pauvre missionnaire et rien de plus. J'ai dit que Poséidon désire voir les Atlantes quitter l'île avant qu'elle naisse de graves conflits avec les autres habitants de l'île. Les géants ont déjà entrepris des pourparlers avec les pêcheurs dans le but de s'allier contre votre peuple. Il ne faut pas bâtir ce temple à Raya. Et si je le fais bâtir? Eh bien, les géants comprendront qu'il s'agit d'une profanation pure et simple de leur lieu sacré. L'architecte prit un long respire avant de répondre. Cette pierre est encore plus sacrée pour les Atlantes. Ouais, je le sais parfaitement, et c'est pour cela que je me sens si mal dans ma peau de bête sacrée nom d'un chien. Croyez-vous que je sois l'ennemi des Atlantes? Ma tâche est de vous dire que Poséidon provoquera de grands malheurs si votre peuple demeure sur cette île, c'est tout. Pouvez-vous répéter le début de votre phrase? Le début? Vous avez dit « ouais ». Peut-être bien, mais pourquoi me demandez-vous cela? Ma mère me disait que c'était le patois de mon père. Après un long silence, Atlantin lui dit « je m'étais pourtant promis de ne pas vous croire lorsque vous viendriez me voir en prétendant être mon père. J'ai lu les écrits qui concernaient cette rencontre que je ferai un jour avec le missionnaire de Poséidon. Je viens de vous entendre exprimer un juron qui fut d'ailleurs les derniers mots prononcés par mon père. Il aurait dit à ma mère en lui souriant tristement, « tu dois quitter la cité avec Atlantin sans chercher à me convaincre de vous suivre. Ouais, c'est ce que mon cœur me demande de te dire. » Votre mère vous parlait de votre père très souvent. Oh, il disait qu'il était un brave marchand. Il vendait des poules, des lapins et surtout des chiens. Il les dressait si bien qu'il dansait sur les tables pour amuser les passants. J'ai su, par ma mère, que les citadins se plaignaient souvent des chiens qui les volaient avant de retourner auprès de mon père. Il s'amusait à les vendre et surtout à les revendre plusieurs fois. « Oh, on appelle cela voler les gens, » lui dit Pêchel d'un air embarrassé. « Ainsi votre père dressait des chiens qui devaient dérober des objets à leur nouveau maître avant de revenir chez lui. » C'est un peu cela. Il abusait les citadins de cette façon et se faisait abuser par d'autres marchands. C'était ainsi qu'on concevait les affaires à cette époque. Pêchel fixa Atlantin au point de le dévisager. L'autre lui dit d'un air agacé, « non. » Je ne suis pas votre fils, car je vous aurais reconnu. Est-ce que vous pouvez voir mon âme? C'est elle qui ressemble à votre père et non mon corps actuel. Je suis Fontaine de Morpéchel, avec l'âme de Mercure. Je vous en prie, cessons ce jeu inutile. J'avoue avoir été emporté par votre patois, et je m'en excuse. De toute manière, je ne crois pas à la transmigration des âmes. C'est alors que Pêchel revit l'image du berceau le hanter de nouveau. Je vois Mercieux penché au-dessus du berceau de son fils Atlantin. De grâce, s'il s'agit de trouver un moyen de m'émouvoir à nouveau, je dois vous dire que tous les Atlantes savent que j'ai hérité de l'unique berceau d'Arcara, puisque ma mère fut la première femme enceinte dans la nouvelle cité. « Je n'en suis pas vraiment surpris, votre père était toujours vite en affaire. Je pense que mon père a été le premier à boire une boisson qui troublait les sens. Après lui, d'autres fautifs en firent autant et leurs femmes devinrent enceintes. On dit que mon père aurait reçu cette potion sexuelle du seigneur Alban. « Pauvre femme !» s'exclama Pêchel en bouffant de rire. « Pourquoi riez-vous ? Je préfère ne pas commenter l'image qui vient de surgir de ma mémoire. » Vous pensez pouvoir vous rappeler votre vie antérieure, si j'admets en toute réserve qu'elle pourrait exister? Il s'agit de ma vie intérieure, c'est-à-dire celle de mon âme. Je pense qu'elle tient à éveiller en moi des souvenirs. Je vois encore ce fichu berceau que je fais bercer sans arrêt. Cette image m'obsède et cherche à me faire comprendre un autre message. Si vous tenez tant à voir ce berceau fictif, je vais vous montrer le vrai. Ainsi, vous pourrez peut-être découvrir ce message. Peut-être bien. Je vois de nouveau cet objet que je fais bercer lentement. Il est vide, mais je semble l'examiner attentivement. J'aimerais bien savoir pourquoi. L'objet était conservé dans une galerie souterraine de Mu. L'unique berceau arcadien valait aux yeux des Atlantes autant qu'un joyau royal. Il ne faut pas oublier qu'il fut la propriété du prophète Calapira avant d'appartenir à la famille de Mercure. Ainsi, Atlantin invita Péchel à le suivre au souterrain où des centaines de gardiens surveillaient les longs corridors cylindriques. Ceux-ci faisaient quelque 70 kilomètres sous la cité et débouchaient tout près de Raya. On peut s'imaginer quel plan avaient adopté les Atlantes pour se rendre dans cette région sans se faire remarquer des géants. En plus d'être simple, ce projet d'invasion de Raya comportait des avantages énormes. Atlantin dit à son invité qui le suivait craintivement dans l'un des corridors humides, « D'ici 5 ans, nous aurons entièrement contrôlé cette région en creusant plusieurs galeries sous la pierre. Nous avons étudié le sol de Raya et les résultats de nos analyses nous permettent de croire que nous pourrons faire disparaître ce fragment de notre planète dans un lac souterrain. Mais ce temple que vous vouliez bâtir, il sera souterrain. Nous le bâtirons près du lac. Ne souriez pas. Nous sommes en train d'agrandir cette nappe d'eau située sous Raya, et lorsqu'elle sera assez large, nous creuserons simplement sous la pierre. Les géants verront alors leur pierre sacrée disparaître dans le sol sans qu'ils puissent intervenir. C'est malhonnête. Non, ingénieux comme plan. Nous ne pourrons jamais négocier quoi que ce soit au sujet de cette pierre, et nous ne sommes pas disposés à faire la guerre. Un conflit nous entraînerait dans une situation où les Atlantes et les tribus de l'île perdraient toute opportunité de vivre en paix. Le mieux est de reprendre ce qui nous appartient sans provoquer la colère des géants. Ils se diront que la terre a dévoré leur présent et que les Atlantes ont également disparu de leur île. Oh, si je comprends bien, les Atlantes vont tenter de vivre sous terre. Nous avons déjà développé un système de serres qui nous permettront de cultiver tout ce que nous désirons. Nous rebâtirons une cité autour de la pierre et nous nous ferons vite oublier par les tribus qui habitent sur l'île. Poséidon veut nous voir quitter son île pour éviter des conflits avec ses habitants. Je ne pense pas qu'il s'objectera à nous laisser vivre sous terre si nous laissons nos cités et nos champs aux populations de haut. Atlantin, vous êtes un génie dangereux. Je sais à présent pourquoi Poséidon veut vous faire quitter l'île. Je croyais qu'il favorisait les géants et les pêcheurs, mais c'est son île qu'il veut protéger contre des rongeurs. Oui, c'est exactement ça que vous faites en creusant tous ces tunnels qui affaiblissent le sol de ce continent. Croyez-moi, j'ai la certitude que les Atlantes n'obtiendront que l'effondrement de l'île. Allons donc. Vous semblez ignorer que nous ne creusons aucun tunnel avant d'avoir étudié la structure et la solidité de son sol. Eh oui, eh bien, un jour ou l'autre, vous finirez par être des petits rats tout terrain. Péchel était sérieux en disant cela, mais Atlantin se contenta de lui dire ironiquement, « C'est possible, puisque les Atlantes aiment bien le fromage. » Si des centaines de souterrains furent creusés à main d'homme pendant une centaine d'années, les nouveaux corridors ne prenaient que quelques semaines à être réalisés. C'est que les Atlantes utilisaient un nouveau rayon capable de creuser en un instant un trou de 10 mètres de circonférence par 4 de profondeur en quelques minutes seulement. Ce rayon portait le nom évocateur de manche-pierre. Il pulvérisait des centaines de tonnes de roches en poussière et celles-ci étaient ensuite utilisées pour cimenter les galeries souterraines. On n'avait pas encore entrepris des travaux d'excavation autour de Raya, car les scientifiques de Mu travaillaient à mettre au point un mange-pierre encore plus puissant. Ils devaient, en principe, pouvoir pratiquer un trou de 100 mètres de circonférence par 20 de profondeur. Péchel se retrouva dans une voûte très haute et très épaisse. C'est là qu'on y conservait plusieurs écrits atlantes et le fameux berceau d'Atlantin. deux gardiens firent signe au missionnaire d'approcher d'un objet recouvert d'une couverture de jute. Celle-ci était une autre relique du grand maître Kanapira. En voyant le berceau, le missionnaire s'écria, « C'est lui, je le reconnais. » « Je vous en prie, ne criez pas ainsi, » Péchel se contenta de répondre à Quentin, en fixant l'objet d'un air nostalgique. « Je me souviens pourquoi je m'amusais à le faire bercer, » s'exclama Péchel d'une voix excitée. « Je venais de trouver des jolies pierres exotiques dans la gueule de l'un de mes chiens, et je voulais les cacher dans un endroit sûr. Si vous défaites le fond du berceau à Quentin, vous y trouverez un sac de petites pierres roses, à l'odeur de... Voyons, souviens-toi de cette odeur, Péchel. Assez. Vous dépassez les limites de ma tolérance, étranger, s'écria l'architecte d'un air indigné. Il n'est pas question d'abîmer ce berceau pour vous faire plaisir. Je vois. C'est cette peur de devoir vous retrouver face à face avec votre père qui vous effraie. Parfait, alors. D'un geste rapide, Péchel empoigna le berceau et arracha le plancher de celui-ci avant qu'on puisse se saisir de lui. Un sac tomba sur le sol et les petites pierres roulèrent devant Quentin. Aussitôt, tous les gardiens s'agenouillèrent pour les ramasser. Pourtant, dès qu'ils furent assez près pour les sentir, des larmes s'écoulèrent de leurs yeux. Un homme s'écria, « Ne les touchez pas, ce sont des graines de futures fleurs de cristal. » Quentin était si ému qu'il se jeta dans les bras de Péchel en gémissant. « Père, vous avez retrouvé les graines de notre salut. » En effet, Mercier avait découvert dans la gueule d'un chien les dernières graines de cristal encore vivantes d'Arcaran. Il faut savoir que les Arcariens cultivaient des fleurs de cristal dans leurs jardins familiaux. Lorsque certains citoyens cessèrent de les entretenir avec amour en les arrosant chaque jour, ils perdirent leurs droits. Ces fautifs furent justement les habitants de la cité de Verre. Dans un manuscrit écrit de la main du maître Lemu, celui-ci racontait avoir suivi les fautifs dans cette cité, sans pour autant perdre ses droits. Il voulait dire simplement qu'il possédait toujours sa fleur magique. Lorsque les grands prêtres accompagnèrent les fautifs dans leur exode, ils conservèrent leurs graines de cristal dans une jarre et cachèrent celles-ci sous le temple de la cité. Un chien s'introduisit malheureusement dans cette cachette et y brisa le pot en pensant y trouver de la nourriture. Il avala toutes les graines et retourna voir son maître, Mercieux. Lorsque celui-ci vit l'animal régurgiter ses pierres, il s'empressa de les nettoyer et de les cacher dans le berceau de son fils à Quentin. Ces petites graines appartenaient donc au grand prêtre de la cité Souvenance. Pour les Atlantes, ces reliques pouvaient sans l'ombre d'un doute prouver sans l'ombre d'un doute l'authenticité de ce culte des fleurs de cristal, raconté dans les livres sacrés de Mu. Péchel, dit l'architecte, en tenant ses petites pépites lumineuses dans sa main tremblante, vous venez de nous offrir un véritable trésor. Savez-vous qu'elles appartenaient aux plus illustres religieux de l'époque? Si nous parvenons à les semer dans une terre rouge qui ne contiendra aucune impureté, des fleurs de cristal apparaîtront et répandront un parfum si doux et mystérieux que des effets bénéfiques s'en suivront à la surface de la terre. Chaque jour que nous respirerons ces fleurs, nous sentirons le canton d'Atlantis. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente pour les Atlantes? Nous aurons un souvenir éternel et physique de ce monde disparu. Nous ne savons vraiment pas comment vous remercier. « Quentin, lui dit le missionnaire en caressant le berceau, je suis votre père et je vous ai bercé dans cet objet. Puis-je le conserver en votre mémoire? » Quentin avala sa salive avant de répondre. « Je ne peux offrir ce berceau à Péchel, mais si mon père le désire, qu'il le prenne, puisque Kanapira lui offrit celui-ci le jour de ma naissance. Je pense que vous savez combien il me sera pénible de m'en défaire à cause de sa valeur symbolique. » Je vous demande simplement de le conserver précieusement. Rassurez-vous, mon fils, je détiens déjà un fragment de la boule magique de Primus Tazal. Les historiens voudraient bien le posséder, car il s'agit de ces quelques 400 000 ans d'histoire qui manquent à l'évolution humaine. Vous possédez donc une pièce inestimable, puisque vous avez la preuve qu'une autre race humaine peupla la terre avant l'homme des cavernes. Oui, c'est cela. Votre berceau sera caché des regards envieux, tout comme ce fragment oublié, ou peut-être laissé là volontairement par Primus Tazal. La découverte des cristaux arcariens éveilla un nouveau souffle d'espoir dans le cœur de ces immigrants d'un autre monde. Mais Péchel savait que les Atlantes finiraient tout de même par détruire ce continent. Entre citadins de Mu, on utilisait souvent le nom de Lémurie, en mémoire d'un grand prêtre arcarien appelé Lemu. Les citoyens de Pia préféraient le mot Atlantide pour désigner ce continent. On voit qu'il existait déjà à l'époque une certaine division au sein de ce peuple. Les Lémuriens et Atlantéens ne respecteraient pas les avertissements de Poséidon, et on sait ce qui en coûtait de désobéir à une divinité aussi puissante que le dieu de la mer. À l'époque où ce missionnaire prêcha l'abandon de l'île au nom du dieu Poséidon, il existait une nouvelle école de pensée dirigée par le grand prêtre Raznek Asien. Cet ancien ornomaniste affecté à la décoration de la cité devint un jour l'un des religieux les plus imposants de Mu. On le surnommait Asien, le réformateur des textes sacrés. En effet, ce grand prêtre se croyait en droit de remodeler tous les anciens textes et surtout d'en corriger les fautes d'écriture, de style, de présentation, etc. Lorsque Raznek Asien apprit la découverte des graines de cristal, sa première réaction fut de douter de la véracité de cette découverte. Le missionnaire pouvait, selon lui, avoir profité d'un instant de distraction d'Atlantin pour jeter ses cristaux inconnus sur le sol. Rien ne prouvait qu'il provenait de cette ancienne cité arcarienne. En réalité, cet homme se fiait uniquement aux traductions et interprétations des textes sacrés qui ne mentionnaient plus l'existence de ces étranges graines de cristal. Dans les écrits originaux, les maîtres parlaient de fleurs entités, d'âmes cristallisées, de roses lumineuses ou encore de fleurs d'amour. Le problème avec ces maîtres, c'est qu'ils écrivaient toujours au son, c'est-à-dire phonétique, et dessinaient des symboles, soit devant certains mots importants à retenir, ou après des mots qu'il fallait lire avec prudence. Pour comprendre les textes sacrés, on devait non seulement être initié aux sciences ésotériques des maîtres arcariens, mais également pouvoir écrire de manière à faire passer des secrets en parlant des tomates, des récoltes, de la pluie et du beau temps. Raznek Asien apprit que Péchel cherchait à convaincre Gitanial et Atlantin d'abandonner le projet du temple de Raya. Il invita ses confrères à une réunion d'urgence afin de les mettre en garde contre cet homme. Au début, les autres grands prêtres se moquèrent de ses fausses présomptions. Pourtant, lorsque l'un des gardiens vint les informer que le berceau venait d'être offert aux missionnaires par Atlantin, les sages du temple de cristal cessèrent de rire. Comment pouvait-on avoir l'audace d'offrir une telle relique à un étranger, se disait-il entre eux. Le gardien expliqua que le missionnaire était vraiment le père d'Atlantin. Il faut admettre que nos écritures parlent effectivement du père d'Atlantin qui viendra comme messager du dieu Poséidon, dit l'un des grands prêtres d'une voix troublée. Mes amis s'empressa de dire à Zien, « Le père d'Atlantin ne doit pas être pris au sens de son père naturel, voyons. Ne vous laissez pas endormir par cet homme qui puait l'alcool en arrivant ici. » Et qui serait le père spirituel d'Atlantin, demanda un autre confrère. Mais qui est le père de tous les Atlantes, répondit Asien en souriant. C'est le grand prêtre Lemu, celui qui accompagna les fautifs dans leur misère et qui mourut de peine en voyant des milliers d'habitants périr dans la cité sous Nance. C'est lui notre père. Et vous avez raison, s'empressa de répondre Asien en joignant les mains. Alors, chers amis, lorsque les écritures parlent du père vêtu d'une peau de bête, ne voyez-vous pas qu'il s'agit du bon maître Lemu, l'ancien gardien de brebis Laknak? C'est vrai, il est écrit qu'il conservait toujours des boules de blé enrobées de miel afin de les offrir aux brebis qu'il rencontrait sur sa route. Convaincu que Péchel n'était qu'un imposteur, ces religieux cherchèrent ensemble un moyen de s'en débarrasser, sans toutefois provoquer de scandale. Le grand superviseur de Mu fut averti rapidement qu'on complotait contre le missionnaire de Poséidon. Il jugea plus prudent de le faire sortir de la cité pendant la nuit, et surtout sans tambour ni trompette. Il existait un passage secret dans le vaste laboratoire du temple de cristal. C'est là qu'on travaillait à mettre au point un bouclier protecteur. Aujourd'hui, nous parlerions d'un laser désintégrateur de particules élémentaires constituées en chaîne. Les Atlantes savaient déplacer les atomes et surtout les reconstituer en de nouvelles symétries. Ils utilisaient des cristaux de mégathor, c'est-à-dire de concentration d'énergie psychique pure, et des faisceaux lumineux de trois pierres, soit du cristal, du rubis et de la poudre d'oricalque, broyés ensemble et ensuite trempés dans du verre cristallisé. La pierre taillée, ensuite en forme de toupie, tournait au fond d'un bassin rempli d'eau et créait une sorte de spirale lumineuse. Alors, on descendait un long tube de verre au cœur de la spirale, et il suffisait d'introduire un simple grain de mégathor dans le tube pour qu'il canalise les couleurs de la spirale. On aurait dit que ce tube aspirait les couleurs, mais en réalité, il les réunissait en un seul rayon. Le bout du tube était introduit dans une grande sphère vide et opaque. C'est à partir de là que se faisait le transfert d'énergie des cristaux en lumière symétrique. Au bout du globe de verre se trouvait un fil aimanté. Il était si fin qu'il fallait vraiment avoir une vue extraordinaire pour le voir. Lorsque la toupie tournait au fond du bassin, ce fil invisible à l'œil nu prenait feu. Le mot est vite dit. En réalité, ce fil aimanté devenait un puissant rayon capable de passer entre les atomes et les déplacer selon une symétrie précise. C'est pour cela qu'on lui donnait le nom de lumière symétrique. C'est dans ce laboratoire fantastique que Peychel fut conduit par l'architecte atlantin. Le missionnaire y attendrait sagement la nuit, et quelqu'un l'introduirait alors dans le tunnel secret qui passait sous l'un des murs de la cité. Un fidèle serviteur de Gitonial s'était déjà occupé de reconduire Galette en dehors de Mu, et l'avait caché dans un bois en attendant l'arrivée de son maître Peychel. Il faut dire que Gitonial et Atlantin étaient vraiment troublés par l'attitude des grands prêtres. Comment pouvait-on désirer faire du mal aux messagers de Poséidon? Ces deux hommes venaient de réaliser que l'esprit pacifique Atlante était devenu celui du matérialisme. Des religieux capables d'adopter de telles mesures destinées à protéger leur prestige ne méritaient plus de porter la longue robe verte. Celle-ci, qui devait représenter l'espérance d'un peuple dans ceux qui recherchaient la vérité et la sagesse, n'était plus qu'un leurre. Les longues tuniques vertes devinrent la couleur de la folie. Même Atlantin n'était plus certain d'avoir envie de bâtir ce temple à Raya. Malheureusement pour lui, son génie s'était déjà fait dépasser par les jeunes architectes qu'il avait formés. Cet homme ne pouvait plus arrêter le progrès, et encore moins l'élan des jeunes scientifiques. Ils ont cru en son œuvre, imitant ses traces, admirant ses idées de grandeur, et rêvant de devenir eux aussi des Atlantins géniaux. Peychel fut impressionné par le laboratoire et encore plus surpris de voir un jeune scientifique lui tendre la main en disant « Venez vous asseoir, monsieur Peychel, nous avons plusieurs heures à attendre avant la nuit. C'est moi qui vous ferai sortir de Mu. Mon nom est Getmahar, étudiant de l'illustre Matar, inventeur du mange-pierre. » Peychel se trouvait en face de son ami Ramage. Il aurait bien aimé pouvoir lui parler de leur rencontre dans le futur, mais c'était impossible. Ce jeune homme était, comme tant d'autres, emballé par les expériences du maître Matar, anagramme parfait de Rama. Et sa tête était remplie de tendres illusions. « La science vous intéresse, monsieur Peychel ?» lui demanda le jeune homme après s'être assis devant lui. « Oui, comme tout le monde, je pense. » J'avoue être vraiment impressionné par votre costume. Est-ce vrai que vous voyagez dans le temps? Je sais que c'est un secret bien gardé à Mu, et seulement quelques savants savent que le missionnaire de Poséidon vient de l'époque de Néandertal. Vous me fascinez. Eh bien, jeune homme, lui répondit Peychel amusé par son regard envoûté. je ne suis pas seulement venu du passé, mais du futur. Sacré nom d'un chien, vous pigez vite, mon cher jeune homme. Vous venez vraiment du futur. Racontez-moi tout. Je viens du Moyen Âge.
Ah bon? Il existe un vieil et un Moyen Âge, alors.
Les hommes du futur aiment bien séparer le temps comme un fromage, lui répondit le missionnaire en riant.
Si vous venez effectivement du futur, comment voyagez-vous au Moyen Âge?
À cheval, voyons.
Sur le dos d'un animal?
C'est ridicule, tout à fait inimaginable.
Bientôt, nous aurons réinventé les vaisseaux spatiaux, et vous me dites que les hommes voyageront à cheval?
Pêcheur ne tenait pas à lui répondre que les grands rêves atlantes sombreraient au fond de l'eau.
Il se contenta de dire ironiquement,
« Les hommes aimeront toujours monter à cheval, que ce soit dans une époque ou une autre, vous savez. »
« Vous pouvez me révéler le mode d'existence des sociétés atlantes du futur.
À quoi ressemblera Mu, par exemple? »
« Mu? Oh, les hommes en parleront comme du plus grand bassin d'eau au monde. »
« Aquarium?
Oui, vous voulez dire que nous posséderons les plus beaux spécimens de poissons au monde? »
« Certainement.
Ils vont même nager au-dessus de la cité. »
« Magnifique, alors. Il va falloir une grande puissance d'eau et des parois très solides pour éviter d'inonder la capitale.
Je pense que nous serons bien contrôlés dans cette époque, la pression énorme de toute cette eau. »
« Malheureusement, lui dit le missionnaire, je ne suis pas un scientifique pour vous expliquer comment cela se fera, cet aquarium. »
« Bien, pouvez-vous alors me dire comment vivront les petites colonies atlantes ?»
Installé au pays du cristal.
De quel pays encore?
Du cristal. Vous devez sûrement connaître cette colonie implantée au nord du continent amérindien.
Oh, vous voulez parler de la terre des maîtres de la forêt verte?
Oui, elle doit être devenue la terre des Atlantes.
Je veux dire, dans le futur.
Gettmahar parlait justement d'une colonie atlante qui suivit le maître Kanapira dans son voyage à travers le monde. Il aurait établi un groupe d'Atlantes en Égypte et un autre au nord de l'Amérique. Dans le fragment conservé par Peychel, on parlait d'une race qui peupla l'Europe et qui aurait été gouvernée par des sages qui vivaient au Greenland. On doit savoir que cette terre fut recouverte de forêts vertes pendant des milliers d'années. Kanapira voulait retrouver les vestiges de cette société des grands maîtres très puissants qui vivaient en Amérique du Nord. C'est finalement plus au sud que la colonie atlante s'installa. On voulait du cristal et il semblerait que d'imposants gisements de pierres transparentes se trouvaient sur la terre verte, connue plus tard par Nouvelle-France, et que ces minéraux émettaient une étrange vibration. Kanapira, qui envoya un messager porter une missive à son frère Anakilémon, indiquait que ce cristal était toujours imbibé des vibrations laissées par les anciens maîtres de la forêt verte. Il fit donc dresser un tout petit village au cœur d'une forêt et il lui donna le nom de Kanada. Si le mot « da » voulait dire « grand » dans la langue des géants de haut, il signifiait simplement « de » dans la langue de Mu. Ainsi, Kanada était simplement le village de Cana. Peychel ne tenait pas à discuter de cette colonie atlante, puisqu'il ne fit jamais parler d'elle directement. On se demande parfois pourquoi les Amérindiens furent méconnus des Blancs, bien qu'ils soient hautement civilisés, et quoi qu'en pensent les historiens qui défendent la thèse de l'évolution des peuples d'Amérique par l'influence de la prestigieuse Espagne. Elle l'était dans son domaine, tout comme les Amérindiens l'étaient d'un autre point de vue. On parlera souvent des milliers de sacrifices humains pratiqués en un seul jour par des grands prêtres d'Amérique du Sud. C'est un fait et personne ne doit l'oublier, tout comme les massacres pratiqués partout dans le monde. L'Inquisition ne fut pas plus divine que ces sacrifices humains qu'on offrait au soleil, à la nature et pourquoi pas à des forces supérieures. Si certaines forces étaient d'ordre spirituel, d'autres étaient plutôt politiques. Peu importe la couleur de sa peau et le nom de sa race, l'homme passe son temps à souffrir d'un mal, que que seule la sagesse pourra un jour guérir.
Guetmahar posait une foule de questions, et Pechel avait vraiment envie de lui dire, « Voyons, jeune homme, tu rêves d'un monde à la manière des scientifiques, mais d'autres l'imaginent comme des politiciens, des hommes d'affaires ou comme des religieux. C'est quoi le monde de tout le monde? »
Le soir vint finalement et le jeune étudiant de Matar ouvrit le mur secret. Il se trouvait derrière une rangée de vieux livres de sciences arcariennes. Ils étaient tous poussiéreux et probablement oubliés là par ses nouveaux maîtres scientifiques. Derrière cette bibliothèque se trouvait un long couloir éclairé par des lampes perpétuelles. C'étaient des néons phosphorescents qui transformaient l'air ambiant en source de chaleur. Le phosphore créait une lumière fluorescente et perpétuelle. Avant de partir en compagnie de son jeune guide, le missionnaire fut attiré dans un coin du laboratoire par Atlantin. Il lui dit d'une voix attristée, « Ne dites rien, et faites même semblant de me serrer dans vos bras comme le ferait un père qui va être séparé de son fils. » Pechel sentit un métal très froid se glisser dans son vêtement. Atlantin lui dit, « Il y avait deux types de mégathores, et celui-ci était le plus puissant en énergie psychique, puisqu'il contrôlait le vaisseau du grand maître d'Orgon. Conservez-le secrètement, car il ne doit pas tomber entre les mains de ces jeunes scientifiques. Lorsqu'ils auront utilisé les derniers cristaux de l'autre tube pour leur expérience sur le bouclier de l'espace, ils voudront également se servir de celui-ci pour augmenter la puissance des rayons lumineux. Un jour ou l'autre, ils finiront par s'en servir contre les géants. Mon peuple a perdu le sens des vertus naturelles et sombre lentement dans la folie du pouvoir. Lorsqu'on me demandera l'autre tube, je serai si vieux que je serai indifférent également au sort qu'ils me réserveront. Vous serez loin d'ici et personne ne vous accusera de l'avoir emporté, car je dirai que c'est moi qui l'ai jeté au fond de la mer. »
Atlantin venait d'accomplir un geste qui lui vaudrait le mépris des dirigeants de Mu. En effet, il ne croyait plus en la bonne volonté des Muriens et préféra saboter les travaux des scientifiques en faisant disparaître un tube de négator. Pechel serra son fils dans ses bras en gémissant. « Vous allez être condamné à mourir lorsqu'ils apprendront ce que vous avez fait, mon fils. »«
Oui, père, je le sais, et je ne regrette rien. » Je suis déjà mort depuis que je viens de réaliser que les descendants arcariens n'ont plus rien de commun avec eux. »
Le temps pressait et Pechel serra son berceau sur sa poitrine afin de dissimuler la forme du tube de Mégator. Lorsqu'il s'engagea dans le passage secret, il se retourna une dernière fois pour examiner Atlantin. Mais l'autre s'était déjà enfermé dans son atelier de travail. Guetmahar conduisit le missionnaire dans un bois où l'attendait son brave chien Galette. Il jappa joyeusement. « Wouf de wouf, j'ai hâte de retourner trotter sur les routes, tu sais. »
Une fois monté sur son chien géant, Pechel serra les mains de Guetmahar en lui disant,
« Nous nous reverrons un jour, puisque je viens du futur. Est-ce que vous aimez les rats blancs? »«
Bro, je déteste les rats, » s'empressa de répondre le jeune homme.
Je vois.
Pechel riait puisqu'il savait qu'il reverrait un jour son ami dans la peau d'un petit rat blanc. Le jeune scientifique le salua de la main et retourna dans le passage secret, pendant que Galette disait d'un air contrarié.
Je ne comprendrai jamais les humains qui disent je vois, alors qu'ils ne voient rien du tout.
Allons, Galette, en route vers l'inconnu, lui dit son maître.
Je vois, wouf de wouf.
Il fallait fuir au plus vite cette cité et trouver un refuge où personne ne pourrait retrouver le missionnaire. L'homme savait qu'il devait attendre sagement l'apparition du couloir intemporel pour quitter cette époque. Galette comprit parfaitement la situation en empruntant des routes désertes, qui menèrent sa trotte jusqu'à un plateau désertique. L'endroit semblait si désolé que même son compagnon lui dit d'une voix troublée.
« Bon, je t'avais demandé de me cacher quelque part et non de me conduire dans un désert. »«
Maître, si l'illustre Anakinémon passe à volontiers des années dans celui-ci, tu peux bien y demeurer un certain temps, n'est-ce pas ?»«
Anakinémon vivait ici ?»«
Oui, dans la caverne de glace qu'on voit sur le flanc des collines. »
Le missionnaire se sentit vraiment ému en pénétrant dans cette humble caverne
où quelques meubles ornaient pauvrement l'ancien ermitage d'Anaquilémon. Tout de même, certains vandales s'étaient permis de briser de la poterie et même de dessiner des choses grotesques sur les parois de la grotte. Pinchel trouva plusieurs cruches vides qui contenaient du vin. Puisque l'ermite ne buvait pas d'alcool, celle-ci promenait des fêtards nocturnes. En effet, ce lieu était devenu une belle cachette pour ceux qui n'avaient pas le droit de consommer du vin dans la cité de Mu. Était-ce un bon endroit pour y cacher un homme qui serait bientôt traqué par les scientifiques de la cité? Je pense que c'est imprudent de demeurer ici, mon brave Galette. Le jour, c'est peut-être une bonne cachette, mais le soir, il se peut fort bien qu'on ne soit pas les seuls à y passer la nuit. Tu crois que les buveurs nocturnes vont revenir bientôt? Pinchel lui marque quelques cruches vides pour ensuite répondre sans détour. Ils ont vidé celle-ci il y a 3 jours environ. Les autres sont vides depuis quelques mois. Tu sais cela en introduisant ton gros nez dans les cruches? Oui, je m'y connais en vain. Si tu veux, nous allons nous reposer le jour et nous promener la nuit. Ainsi, on ne risque pas de se faire découvrir par ces fêtards. Que ferons-nous toute la nuit? Nous observerons les étoiles, s'il fait beau, évidemment. Nous veillerons toute la nuit sans faire de bruit. Nous ferons cela toute notre vie ou quoi? Non, il faut protéger avant tout ce berceau et le tube de Mégator. Bientôt, je vais disparaître de cette époque. Je ne sais pas si cela te plairait de voyager dans le temps avec moi. Je sais pourquoi que tu me poses cette question. Tu t'imagines sans doute que je serais malheureux si tu quittes cette île sans moi? C'est un peu cela. Tu es devenu mon ami et je ne voudrais pas qu'il t'arrive le moindre mal. Sois sans crainte à mon sujet. Je n'ai pas l'habitude de me laisser prendre dans un tas de pierres comme lorsque tu m'as secouru. Je suis un chien géant qui a besoin de beaucoup d'espace pour être libre. Comme j'ignore où tu iras, je préfère demeurer ici. Je vois. Tu vois que je vais être triste lorsque tu vas me quitter alors. Oui, nous serons tristes de nous quitter. Le chien sortit de la grotte pour lui trouver de la nourriture. Il connaissait fort bien la région, ce qui lui évita de chercher longtemps les grosses patates sauvages qui poussaient non loin de là. Ce champ fut jadis entretenu par Anaquilémon. Non loin de l'ancien potager se trouvait une petite source qui coulait entre 2 collines. La bête s'y abreuva rapidement avant de trotter vers la grotte. Le gros chien vit alors Pinchel agenouillé devant une grosse pierre située à 10 mètres de la caverne. « Viens voir, mon ami, ce que je viens de découvrir, » s'exclama le missionnaire. « Mais c'est un gros caillou comme les autres, mon maître. »« Non, c'est une pierre tombale aussi modeste que celui qui repose ici. »« Le maître Anaquilémon ?»« Oui, quelque chose me dit que son corps est enseveli sous cette pierre. »« Je ne vais sûrement pas profaner sa dépouille pour en avoir le cœur net, n'est-ce pas ?»« Tu vois son corps sous la pierre ?» Non, j'en reçois les vibrations au bout de mes doigts. Tantôt, je me promenais en t'attendant, et je me suis assis sur cette pierre pour me reposer. J'ai vu d'étranges images m'envahir l'esprit, comme si j'assistais à des événements qui se sont déroulés ici, avant la mort de ce maître. Tu as vu le maître Anaquilémon? Le missionnaire opina d'un large signe de tête avant de répondre. « Oui, il était très vieux et aveugle, tu sais. » Un autre vieil homme à la barbe blanche lui soutenait le bras en lui disant qu'il méritait bien de quitter la terre sur le dos de la fantastique licorne ailée qui apparut devant lui comme par enchantement. Anaquilémon retrouva la vue et pleura de joie en fixant ce cheval d'une rare beauté. Son corps tomba mollement sur le sol, mais son âme prit place sur le dos de la monture fantastique. Le maître avait l'aspect d'un jeune adolescent plein de vie et de santé. Il salua l'homme à la barbe blanche avant de s'élever dans le ciel comme un ange. C'était vraiment beau, cette scène. Puis j'ai vu l'étranger étendre ses mains exactement au-dessus de cette pierre et prononcer ces quelques paroles. « Voici le tombeau d'Anaquilémon, mon frère. » Son corps disparut aussitôt. Il l'enterra sans creuser de trou. « Oui, Galette, je pense que ce vieil homme était magicien pour accomplir un tel prodige. »«
À présent que tu m'as raconté ce que tu as vu, je peux t'offrir ces grosses patates, j'ai faim. Moi aussi. » Pêchel mangea avec appétit et s'étendit ensuite sous un arbre pour dormir un peu. Il savait qu'il devrait passer la nuit éveillé. Le chien en fit autant. Pendant leur sommeil, Primus Tazal s'approcha sans faire de bruit. Comme le missionnaire ne pouvait prendre le risque de se promener avec le tube de Mégator, il lui retira habilement celui-ci de son vêtement afin de pouvoir l'apporter sur l'îlot intemporel. Par la même occasion, il lui enleva le berceau des mains avant de disparaître. C'est alors que notre homme fit un songe vraiment étrange. Les rats des souterrains de beaux braves entouraient leur chef Rama, et celui-ci leur disait ainsi. Péchel et le curé La Violette ignoreront toujours que l'un des coffres contenait les os de notre illustre architecte de Mu. Raznek Asien n'avait pas le droit de se venger d'Atlantin en le frappant avec un bâton qu'il fit électrifier pour le rendre mortel au contact du pauvre homme. C'est un assassin indigne des scientifiques de Mu. Je m'en sens également responsable, puisque j'ai inventé un mange-pierre qui servit aux ambitions de notre peuple. Rama, lui dit alors le petit rat blanc, tu ne pouvais savoir que ton invention allait devoir servir à des ambitions politiques et religieuses. Un scientifique, lui répondit l'autre, est toujours responsable de ce qu'il fait, mon pauvre ami. Si mon premier mange-pierre devait servir uniquement à creuser des galeries sous la cité, afin de protéger nos écrits contre les géants de l'île, j'aurais dû prévoir que des ambitieux s'en serviraient ensuite pour détruire ce continent. Le sol tremblait, des régions complètes s'effondraient, mais personne ne pouvait faire cesser ces travaux de creusage souterrain. Non, il ne fallait pas que j'invente cet instrument de malheur. Il faut admettre que nous avons été les plus dangereux inventeurs de l'humanité. Dois-je préciser que le canon à particules devait également servir à une bonne cause? Ah, c'était tellement émouvant de s'imaginer pouvoir retourner dans le temps en pratiquant un trou dans l'intemporel, n'est-ce pas, mes frères? Nous étions convaincus de pouvoir retourner sur Arcara avant que le seigneur Alba et le mutant Miettis puissent détruire la cité de verre, lui dit un autre rat. « C'était noble de vouloir empêcher les fous d'agir, » lui répondit Rama sans attendre. « Mais vous ne comprenez pas que cela n'aurait pas dissuadé les citadins de choisir Miettis comme souverain. Il est dit dans nos écrits que les grands prêtres tentèrent de raisonner le peuple sans y parvenir. Nos ancêtres étaient déjà trop matérialistes pour écouter les sages comme Lemu et Cana. Nous avons quand même inventé un couloir intemporel qui n'a servi finalement qu'à fuir l'Atlantide, après qu'un autre de nos inventions risquait de détruire la planète tout entière. Le rayon de la mort fut notre plus grande preuve de la bêtise des scientifiques. Nous avons encore cru bien faire en guérissant toutes les maladies de notre peuple. Mais nous savions également que le rayon pouvait détruire toute forme de vie sur la planète. Nous pensions être assez sages pour l'utiliser comme des dieux veillant sur les peuples de la Terre. Quelle vanité! Jamais les Atlantes n'ont utilisé ce rayon pour détruire le continent, s'empressa de lui dire un autre rat scientifique. Par contre, il a fallu qu'une simple petite mouche pour tromper les calculs des scientifiques, répondit le vieux rat d'une voix amère. Personne n'avait songé à cette éventualité qu'une minime déviation du rayon pouvait inverser les effets bénéfiques du laser en d'or meurtrier. Qui croira qu'un simple insecte parvint à ce résultat lorsqu'il se posa sur le rubis rayonnant? Voilà une vérité que les scientifiques du futur devraient méditer avant de se fier strictement à leurs propres calculs. Cette erreur fut la cause de cette contamination de toute une population qui devait fuir dans les eaux pour éviter de brûler sous le rayon aussi intense que le soleil. Finalement, c'est à cause d'un autre mauvais calcul, si nous avons été transmutés en rats. Aucun de nous n'avait songé à ce rongeur lorsque nous avons pratiqué cette faille intemporelle sous l'université de Mu. Nous ne pouvons nous permettre de laisser d'autres erreurs compromettre l'humanité. Que faut-il faire, maître Rama? Lui demanda Ramage en opinant de la tête. Il faut nous assurer que les scientifiques du futur ne retrouveront jamais les plans du rayon de la mort. Même si l'Atlantide n'existe plus,
il se peut qu'elle soit redécouverte un jour. Si les plans sont encore à l'université, il est possible qu'ils demeurent lisibles. Le mieux est de s'assurer qu'ils n'existent plus.
Tu veux dire qu'on devrait nous rendre en Atlantide pour les détruire avant que le continent disparaisse sous les eaux?
Oui, Ramage. Je me souviens parfaitement que ceux-ci étaient sur une grande table et que des techniciens les étudiaient avec soin dans le but de trouver une manière d'inverser le nouveau rayon destructeur. C'est tout ce que je me souviens, puisque je suis descendu ensuite comme vous sous l'université pour fuir le continent.
Mais nous risquons tous d'y périr si nous arrivons justement dans les derniers moments de Mu, lui demanda un confrère étonné.
Pourquoi ne pas y arriver quelques jours avant le désastre?
Mais parce que ces plans étaient normalement conservés dans une voûte que nous ne pourrions atteindre. Le seul moment où ils seront faciles à détruire, c'est lorsque les techniciens les examinèrent peu de temps avant l'effondrement de Mu. Donc, si nous faisons vite, il se peut qu'on puisse revenir ici avant le désastre. Nous arriverons exactement sur l'université, puisque c'est là que nous sommes partis pour arriver ici. Logiquement, ce couloir devrait nous ramener rapidement à Beau-Brave après notre mission.
Rama, tu sembles oublier que nous avons utilisé ce couloir à deux reprises depuis que nous sommes dans ces souterrains. La première fois, ce fut pour permettre à des confrères d'aller habiter en Égypte à l'époque des grands pharaons. Puis nous sommes allés cacher le canon à particules dans l'un des temples de Poséidon en espérant que ce dieu comprendrait que nous désirions qu'il empêche d'autres humains de pratiquer des fêtes en intemporel.
Oui, nous étions très naïfs à cette époque, mon pauvre Ramage. Les religions changèrent avec le temps et les temples de Poséidon sont devenus uniquement des reliques. Je souhaite uniquement que personne n'y découvre notre canon dans le futur. Maintenant, ce qui concerne le couloir, nous savons qu'il est très fonctionnel, puisque tu viens d'admettre qu'on s'est promené à deux époques différentes avant de revenir ici.
Ce que je crains, lui dit un autre scientifique, c'est d'arriver en Atlantide après la catastrophe. C'est facile de calculer un tel voyage qui va nous conduire plus ou moins à l'époque que nous désirons, mais de là à dire qu'il pourrait nous faire atteindre notre cible sans nous tromper d'une seule journée est une autre chose.
J'ai passé plusieurs années à examiner le mouvement giratoire du couloir. Il est d'une précision parfaite si nous savons nous synchroniser avec son temps. Il montre toutes les époques terrestres comme sur un calendrier solaire. Il va falloir courir dans la faille sans perdre une seconde lorsque je lèverai la patte.
Le rêveur vit alors des centaines de rats sortir d'une faille lumineuse pour s'engager rapidement dans un escalier qui conduisait dans la vaste salle de l'université. Des gens paniqués en examinant les murs se fissurer près d'un grand bassin qui contenait le rubis rayonnant. Des jets de lumière frappaient des larges fenêtres qui éclataient avec fracas. D'autres faisceaux sortaient de la voûte déchirée et s'élevaient très haut dans le ciel. On aurait dit que cette pluie meurtrière retombait ensuite sur les citadins comme un acide terrible. Les rats sautèrent sur une grande table, pendant que les techniciens apeurés par le terrible rayon de la mort se faisaient projeter partout dans la grande salle. Les rongeurs grignotaient des plans avec férocité et sans s'attarder à regarder autour d'eux ce qui se passait. Des colonnes énormes tombèrent sur eux et Péchel s'éveilla en sursaut.
« Que se passe-t-il, mon maître ? » lui demanda le chien géant. « Ton sommeil était si agité que tu m'as réveillé. »
« J'ai vu la fin de l'Atlantide, lui répondit l'homme en sanglotant. J'ai vu des amis mourir. Je sais maintenant pourquoi les souterrains de Beau-Brave étaient vides lorsque j'y suis retourné un jour de tristesse. »
Galette ne lui posa aucune question sur ce bourg du Moyen-Âge. Il tenta de consoler son maître en le conduisant lentement vers la petite source pour qu'il se nettoie le visage couvert de cendres. En somme, Péchel n'avait pas rêvé, mais plutôt assisté à la fin de Mu. Les cendres sur son visage furent les seules preuves de son triste voyage dans le temps. Notre homme savait même comment périrait son fils Atlantin. Vraiment, était-ce une bonne chose de pouvoir vivre un peu partout dans le temps?
Le soir venu, Péchel se cacha pour examiner une vingtaine d'inconnus se rapprocher de la grotte en tenant des petits flambeaux. Ils étaient silencieux et complètement nus. À la tête du cortège se trouvait Alba. Fort troublé par ces étranges personnages, le missionnaire se rapprochait de la caverne dès que ceux-ci y pénétrèrent en tenant d'énormes cruches de vin sur leurs épaules. Il serait faux de croire que notre homme y fut attiré par l'odeur de ces liqueurs aux parfums subtils. Des hommes et des femmes buvaient en silence, pendant qu'Alba leur disait de profiter de ses joies d'ivresse pour lui faire des enfants. « Je vais les éduquer pour qu'ils répandent l'odeur de notre maître à travers le monde. Sentez les poils de Babouk, le plus puissant des maîtres de l'univers. » Ses fidèles examinèrent retirer un collier de poils de son cou et humèrent celui-ci à l'autotour de rôle. « Vous sentez le parfum du pouvoir, la force de notre protecteur et l'odeur de celui qui se fit craindre par les Arcariens. C'est Babouk qui sera le maître sur terre et non le cœur royal. Demeurez-lui fidèle, puisqu'il vous accordera sa force et ses pouvoirs. Faites-lui des enfants que je vais instruire comme des maîtres de ma secte. Elle est blanche, afin de demeurer invisible dans le monde, et noire, puisqu'il agira dans l'ombre à travers les siècles. » Péchel préféra s'éloigner avec son compagnon avant qu'Alba devine sa présence. Au petit jour, il revint dans la grotte pour examiner le désordre et même les souillures laissées là par les fêtards. Il se boucha le nez en criant. « Maître Anakilémon, comment peux-tu laisser de tels profanateurs ruiner dans ton ermitage ?» Péchel lui répondit une voix intérieure. « Le temps effacera ses souillures lorsque l'Atlantide sombrera au fond des eaux. Alba vient de quitter le continent avec ses fidèles, qui lui offrent des enfants qui deviendront de véritables monstres à travers les siècles. C'est cela, la véritable souillure qu'il faut nettoyer. Ce parfum infecte le monde, et rien ne peut en masquer la forte odeur. » Le missionnaire vit alors la faille lumineuse s'ouvrir devant lui. Khaled détourna la tête en jappant. « Conserve la moitié de notre tristesse, et j'en ferai autant, mon maître. Va, tu dois partir. » « Tu auras toujours une place dans mon cœur, mon brave Khaled. » « Je le vois, ouf de ouf. » Péchel disparut rapidement et le chien retourna dans le champ de patates pour dévorer celle qui risquait peut-être de lui aider à digérer les émotions qui s'étaient logées dans sa gorge.